7h49, Valérie Beaudoin, grande spécialiste des questions américaines. Bonjour Valérie.
Bonjour Paul.
Par où commencer? Il y a tellement, tellement, tellement de nouvelles. Et vous savez quoi? C'est très important de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que ce sont nos voisins immédiats et ça concerne tous les mouvements encore possibles entre notre pays et les Américains.
Oui, et c'est eux, malheureusement, qui sont en tête du palmarès, pas pour une bonne raison en ce moment, mais pour le nombre de cas le plus important. On est rendu, Paul, autour de, on s'en parlait hors d'onde, de 105 000 cas aux États-Unis. Juste pour vous faire le petit parallèle, j'entendais Richard Châteauvert qui disait comment ça évolue la situation à New York, mais je me rappelle la semaine dernière, on se parlait qu'on approchait le 20 000 et on était extrêmement paniqués. Et là, on est à 100 000 cas aux États-Unis.
Et on l'a dit, à New York, c'est plus de 450 décès dans la ville. On parle toujours de New York comme épicentre, mais attention, les yeux sont tournés en ce moment vers une autre ville extrêmement inquiétante quant à la montée des cas et du nombre de décès, c'est la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Eux qui avaient été si durement éprouvés par le passage de Katrina, la Nouvelle-Orléans inquiète énormément.
C'est parce qu'en ce moment, le problème, et je vous dirais que c'est de façon générale aux États-Unis, que ça soit autant à New York, dans des hôpitaux qu'on dit plus riches, que dans d'autres hôpitaux, entre autres à la Nouvelle-Orléans, c'est qu'on manque de masques, on manque de respirateurs artificiels et c'est vraiment ça le nerf de la guerre en ce moment aux États-Unis. On le voit dans tous les points de presse du président et je t'entendais Paul en parler justement de ces points de presse-là. Les journalistes, les questions qui sont les plus pressantes, c'est aurons-nous les ventilateurs? Aurons-nous l'équipement nécessaire pour sauver les Américains? Parce qu'on commence même à partager l'utilisation des ventilateurs dans des respirateurs.
Et je disais tout à l'heure qu'on assiste à une scène que l'on aime ou n'aime pas Trump, ce n'est pas une question de politique. Il faut être vraiment abruti pour commencer à juger les commentaires des gens en disant « Ah oui, ici au Québec, on est anti-Trump, c'est pas ça. » C'est que c'est M. Trump lui-même qui remet de l'huile sur le feu en choisissant ses gouverneurs.
Oui.
Il a même pas appelé la gouverneure du Michigan par son nom, il a dit « La gouverneure du Michigan, le gouverneur de l'État de Washington, quand ça ne fait pas son affaire, il va se prendre directement avec un journaliste. » Il y a seulement Mike Pence, le vice-président, qui a l'air présidentiel dans ce qu'on appelle la task force, le comité pour gérer la crise.
Oui, puis hier, on aurait dû parler d'autre chose parce qu'il y a eu le plan de relance, on s'en parlera tout de suite après aux États-Unis, qui a été signé. Mais ce qu'il y avait au point de presse, c'était vraiment cette relation-là avec les gouverneurs. Trump a dit « Écoutez, Mike va leur parler, mais moi, je me dis, ben, écoutez, si vous n'êtes pas gentil, entre guillemets, si vous n'appréciez pas le travail qu'on fait, ça ne sert à rien de vous parler. » Et ça a vraiment fait la controverse hier. Il y a d'ailleurs Joe Biden qui était dans un town hall de CNN. Alors, il prenait les questions des gens, bien sûr, virtuellement hier, qui a défendu les gouverneurs qui font leur travail et qui a dit que Trump devrait s'élever au-dessus de la partisanerie. Je vais vous laisser, Paul, écouter Joe Biden.
« This is not personal. It has nothing to do with you, Donald Trump. Nothing to do with you. Do your job. Stop personalizing everything. » When he talks to governors, he says, be careful when you talk to that governor, they're not very good, or calls another governor a snake.
Un serpent.
Oui.
Dans ses conversations-là,
oui.
Dans sa garde rapprochée, parle pas à ce gouverneur-là, c'est un serpent.
Et ce qu'il dit, Joe Biden, c'est arrête de faire ça, de prendre ça personnel, c'est pas des attaques envers ta personne, tu dois être le président, être un peu au-dessus de la mêlée et défendre les Américains.
Alors, il reste quand même que cette semaine, il y a eu un vote historique qui est passé au Sénat à l'unanimité. Et à la Chambre aussi, donc le Congrès a transféré ça et Trump a signé hier les mesures les plus exceptionnelles, financièrement parlant, de l'histoire des États-Unis, un plan de 2000 milliards de dollars.
C'est un nombre tellement élevé qu'on a de la difficulté à vraiment le voir, mais 2000 milliards de dollars, ça a été signé par le président Trump hier. C'est une aide, bon, pour les gens, une aide de 1 200 $ qui peut être en paiement direct dans le compte des Américains, mais à la différence du Canada, c'est pas par mois, c'est un paiement pour l'instant seulement. On a un paiement pour les enfants, mais ce qui est vraiment important là-dedans aussi, c'est qu'il y a un plan énorme pour aider les entreprises américaines qui sont vraiment durement touchées. Et il y a une controverse à savoir à qui Qui aura l'argent? Qui aura combien d'argent? On a peur à la fraude. Alors, aux États-Unis, c'est jamais très, très simple, vous le savez. Et en ce moment, on demande qui va gérer cet argent-là, qui va décider à qui on donne un coup de main avec ces milliards de dollars.
Et vous l'avez dit, le tissu social est moins bon que nous.
Oui.
Il y a des Américains de droite, des conservateurs, qui voient dans le Québec, notamment avec notre système de santé et dans le Canada, un pays communiste presque, ou socialiste. Il reste qu'en devant une pareille crise, Valérie, il y a tellement de millions d'Américains qui sont complètement démunis.
Oui, on voyait des images de gens avec des sacs de poubelles carrément pour se protéger dans certains médias américains. On manque, c'est un besoin criant. Le système de santé ne peut pas supporter une crise comme celle-ci. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que la crise est plus importante que ce qu'on a eu en Chine, qui était le foyer, qui était le départ du coronavirus. Alors vraiment, on va relancer le débat des services de santé aux États-Unis, du système de santé. Si un jour, on peut avoir d'autres débats présidentiels, parce qu'on le sait, il y a une élection qui s'en vient, on l'oublie tout ça.
Exact,
mais
en
ça
novembre.
Va, premièrement, comment ça va se passer cette élection-là? Est-ce que la crise sera terminée? Et je peux te parier, Paul, que toute la question de l'accessibilité aux soins de santé, ça va vraiment être le sujet numéro un de cette campagne électorale.
Et c'est un des chevaux de bataille de Bernie Sanders.
Oui.
Il martèle, lorsqu'il affrontait Hillary Clinton pour obtenir l'investiture il y a 4 ans, c'était son cheval de bataille.
Mais en ce moment, les candidats, alors je vous rappelle qu'il y a encore Bernie Sanders et Joe Biden, Bernie Sanders tente de faire sa place et de pouvoir parler aux gens et de leur dire, regardez, justement, si j'avais un plan universel, on pourrait avoir un meilleur accès au système de santé, on pourrait réinjecter de l'argent. Mais comment faire sa place quand une crise du coronavirus prend toute l'actualité, que le président est central là-dedans? Alors, on a mis la partisanerie de côté. Je vous dirais qu'en ce moment, on parle de données et des régions aux États-Unis qui sont en crise. Donc, il y a moins de place pour justement ce message-là de passer à travers tout ce flot d'informations.
C'est intéressant ce que vous dites, Valérie, parce que les États-Unis, c'est un conglomérat.
Oui.
La Californie, c'est presque un pays en soi.
Oui.
À New York, on ne pense pas comme en Californie et vice-versa. Et dans le milieu, vous avez les grands États du maïs, l'Iowa, le Nebraska, le Wyoming. C'est un conglomérat. On ne pense pas de la même façon à Casper, Wyoming, qu'on pense à Los Angeles ou à Chicago.
Et c'est d'ailleurs pourquoi le président avait dit qu'il voulait ouvrir les États-Unis, open for business autour de Pâques. On semble ne pas avoir cette idée-là encore à mettre de l'avant. Parce qu'imaginez, si quelqu'un travaille justement au Nebraska, mais qu'après doit aller se déplacer dans un autre État qui lui est en confinement, comment ça va fonctionner?
Quelle bonne question! Comment peut-on se déplacer encore? On le fait, je l'ai dit hier dans ma petite chronique de 18 heures, c'est invraisemblable. Les avions volent comme si de rien n'était aux États-Unis. Bondés, les aéroports, hier, il y avait 3000 vols dans les airs. Incroyable!
Oui.
Mais on peut pas demander aux gens de se confiner puis avoir à peu près 60 000, 15, 100 000 personnes qui volent en même temps.
Vous avez bien raison, Paul. Alors, la crise est loin d'être terminée aux États-Unis, malheureusement. On va voir la suite ensemble.
Merci beaucoup, Valérie. Au retour, on va aller faire un petit tour du côté de Thérèse qui, elle, reçoit vos messages en texto au 98985 et nous allons aborder une autre thématique. Demeurez avec nous, nous sommes là jusqu'à 14 heures.